Qu'y a-t-il de gaulois en moi ? Question que je ne me serais sans doute jamais posée si cette figure du gaulois n'était pas si régulièrement convoquée par nos présidents, avec humour ou pas, pour désigner au choix le peuple, l'esprit ou le génie français. Vous voyez l'idée. Alors de toutes parts on réagit, hein, citant nombre d'historiens, de César jusqu'à aujourd'hui. De toutes parts on s'interroge, c'est l'occasion ou jamais, sur le peuple, l'esprit et le génie français, parce que manifestement c'est essentiel et ça nous manquait, cette bonne vieille question de l'identité au singulier. Voici donc le Gaulois ressuscité, ancêtre autoproclamé et réfractaire, puisqu'il faut le qualifier, c'est-à-dire le figer encore un peu plus dans un cliché. L'ennui dans ce mot d'esprit, ô combien malheureux, qu'est le Gaulois réfractaire au changement, vous l'aurez compris, c'est pas tant le mépris que le cliché. C'est cette tentation du stéréotype qui revient à enfermer, beaucoup plus qu'à questionner. C'est cette soumission à la banalité quand on s'attendrait à un peu de panache. C'est cette facilité surtout qu'il y a à se dire que le monde peut être réduit à une expression et qui est précisément le contraire de la pensée ou de l'esprit, quelle que soit sa nationalité.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel genre de Gaulois est mon invité d'aujourd'hui ? A-t-il au moins l'esprit français, pour autant que cela signifie quelque chose ? Il est l'un de nos plus grands auteurs et fait souffler sur cette rentrée sa langue tourmentée, incantatoire, incandescente pour un récit de sa jeunesse. Ça s'appelle Idiotie. Bonjour Pierre Guyotat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Alors avant toute chose, y a-t-il au moins un esprit français pour vous ? Est-ce que cette expression signifie quelque chose ?
Oh, je ne sais pas, je pense que cette saillie du président actuel est une de celles qu'il affectionne pour, en même temps pour troubler la presse, je pense. La presse se précipite sur ces petits mots, et pendant ce temps, les lois passent, certaines lois passent, si vous voulez. Donc, c'est une façon de distraire. La presse est peut-être le public pour faire passer le plus important, si vous voulez.
Il y aurait une stratégie de distraction et de dissimulation.
Enfin, le pognon de dingue, tout ça, ça fait causer. C'est pas très important.
Mais qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous, cette expression de Gaulois réfractaire au changement?
C'est un très vieux poncif. Le seul qui l'ait pas utilisé, c'est De Gaulle, finalement. Parce que De Gaulle connaissait beaucoup mieux la France que tous ces gens, que tous les présidents qui l'ont. Giscard aussi le faisait. C'est le propre des présidents économistes, si vous voulez, je crois, aussi.
Que de quoi?
Déplorer que les Français, que les Gaulois, ne soient réfractaires au changement, si vous voulez.
Pour autant, l'expression a quelque chose de savoureux à votre sujet, réfractaire, Pierre Guyotat. À quoi seriez-vous réfractaire, vous, précisément?
Moi, je suis réfractaire à tout, si vous voulez. je trouve qu'il y a il faut prendre les choses comme elles sont. L'humanité n'est qu'un une toute petite chose dans l'univers connu déjà. Ça sera encore plus petit quand on connaîtra plus de choses, si vous voulez. Et c'est une petite peuplade au fond qui se débrouille sur cette boule qui est la Terre, une boule qui est singulièrement menacée, si vous voulez.
Seriez-vous réfractaire?
Non, pour moi c'est pas réfractaire. Voilà, si on considère que l'homme est très important, l'humain est très important, très bien. Alors, mais je pense qu'il y a autant de raisons de désespérer de l'homme que d'espérer en lui, si vous voulez.
Comme par exemple l'idiotie, voilà. Pierre Guyotat.
Alors idiotie, c'est un terme que qui va très bien avec ce livre, ce texte, je crois, et avec tout ce que je fais. Parce que, à côté de ces textes plus ou moins autobiographiques, si vous voulez, j'ai écrit une œuvre de fiction. Et dans cette œuvre de fiction, mes figures, enfin mes personnages, pour parler plus académiquement, si vous voulez, sont des figures. Et toutes mes figures sont des figures d'idiots. C'est-à-dire de gens qui sont irresponsables, qui n'ont souvent même pas d'existence légale, hein, comme les putains, par exemple. Ou les autres, et même dans ce livre, toutes les figures sont un peu idiotes, si vous voulez. Celles de mes camarades, moi-même, toutes ces filles dont on ne sait pas très bien si elle parle ou pas, etc. Tous les gens sont, même les militaires, enfin, même les gradés sont dans cet état-là, si vous voulez.
Ce texte, c'est le récit de votre passage à l'âge adulte, et l'un des lieux de ce passage, c'est l'Algérie. Vous faites votre service militaire. Oui. Quel lieu d'apprentissage et de révolte est-ce que ça a été pour vous, l'armée, Pierre Guyotin?
L'armée, je suis très perplexe parce qu'au fond, je déteste même le principe même de l'armée.
On le ressent.
Mais si vous voulez, il en faut, on le voit bien, il en faut. Je suis toujours très contre les gens qui sont antimilitaristes sans avoir éprouvé ce que c'est que l'armée. Moi, j'y suis resté tout de même 26 mois. Dans un état donc d'asservissement assez fort, comme des centaines de milliers de mes camarades, hein, parce que c'était une génération très éprouvée par cette guerre.
Qu'est-ce que vous avez appris?
On en parle peu. Eh bien, on apprend. L'armée a ceci de fascinant, c'est que c'est l'ordre, si vous voulez, c'est l'ordre, et c'est une certaine efficacité. C'est la logique aussi la logique du matériel, la logique des actions, etc. C'est très intéressant. Et moi, comme je suis un être logique en même temps que réfractaire, si vous voulez, ça m'intéresse beaucoup. Mais je préfère être en dehors de l'armée maintenant, disons. Je le dis maintenant, alors que quand j'y étais, bien entendu, j'étais très, très opposé.
Vous écrivez « Intellectuel, je serais plus maltraité que le non-instruit dont ils espèrent une soumission entière ».
Voilà.
Est-ce à dire que l'intellectuel est forcément un insoumis?
Un insoumis.
Doit l'être?
Mais vous savez, il y a aussi une chose, c'est que on peut être contre l'armée aussi parce que, au fond, on ne se sent pas capable d'accéder au moindre grade aussi possible. Parce que pour accéder à un grade, il faut avoir un corps solide quand même, un corps adroit, il faut faire de la gymnastique, par contre du combattant, avoir quelques notions de mathématiques, quelques notions de physique, etc. Moi, je me sentais incapable de tout ça.
Et à quoi vous refusiez de vous soumettre, somme toute, à l'époque?
Ah ben moi c'était une insoumission généralisée qui avait commencé dans les années quand j'avais 13-14 ans, si vous voulez.
Qui n'a jamais cessé.
Et qui se poursuivait.
Jusqu'à aujourd'hui.
Ça n'a jamais cessé, oui, ça n'a jamais cessé. Sur plusieurs points. Par exemple, sur l'inégalité. L'inégalité. Je sais bien qu'il y a une égalité naturelle, si vous voulez. Mais même cette inégalité naturelle, je ne m'y fais pas.
Comment est-ce qu'on y résiste, Pierre Guyotin?
Bien, je sais pas, en agissant, en se souciant des autres, en se souciant de ceux qui sont dominés, si vous voulez, ou qui se sentent dominés, ou qui se croient dominés, si vous voulez.
Il n'y a aucun moment où vous acceptez un comportement de soumission. Vous mettez dans un comportement de soumission.
Mais
vous
le problème, c'est que, comme je suis idiot, si vous voulez, d'une certaine façon aussi, comme les autres, parce que j'ai été élevé dans une famille magnifique par ailleurs, mais qui était une famille catholique très croyante, donc tout venait de Dieu, si vous voulez.
C'est la prochaine question
poser. Donc Dieu était en fait le maître des droits, du droit d'exister, si vous voulez. Et nous on nous a pas appris ni à l'école, ni en famille, ni au collège, ni nulle part. Du reste, au fond, qu'on avait des droits, que chacun avait des droits. Avait le droit de dire non, avait le droit d'avoir des goûts, d'avoir des préférences, etc., si vous voulez. Et donc j'ai vécu pendant très longtemps, et même maintenant je suis assez difficile là-dessus. J'ai du mal à considérer que j'ai des droits. Je n'ai que des devoirs, parce que le monde pour un chrétien comme je l'étais, etc., et comme d'une certaine façon je suis peut-être resté sentimentalement, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, si
et
vous
que
voulez.
Dieu est partout dans votre
très corps. Fidèle, je suis très fidèle, et que c'est quand même magnifique aussi, c'est une grande chose quand même, la croyance, et Dieu, etc. Au fond, tout est d'un don de Dieu, si vous voulez. La beauté, la nature, l'art, les artistes ne sont que des transmetteurs.
Vous arrive-t-il pour autant de blasphémer?
Ça m'est arrivé à une certaine époque, oui, où j'allais beaucoup au cinéma, j'aimais beaucoup Buñuel, par exemple, j'aimais beaucoup, j'avais tout ce côté-là. Oui, bien sûr, oui, j'ai blasphémé.
Et l'obscénité, Pierre Guillotin.
Même dans Tombeau pour 105 000 soldats, il y a du blasphème sous-jacent, disons. Vous voyez.
C'est le moins qu'on puisse dire, l'obscénité dont ont pu être taxés certains de vos livres à leur sortie. Je pense effectivement à Tombeau, mais plus encore à Eden, censuré à sa sortie il y a 48 ans. L'obscénité, quel sens est-ce que ça a pour vous?
C'est très difficile à définir, parce que chacun a sa définition de l'obscénité. Moi, c'est une obscénité qui est de l'ordre de la forme, si vous voulez, qui est de l'ordre des mots, si vous voulez.
Oui, parce que cela répond à une conception de la littérature.
Je ne suis pas du tout un type obscène dans la vie. Ça m'intéresse pas beaucoup du reste, mais je le deviens dès que j'écris, si vous voulez.
Et ça dit quelque chose de vous et de votre écriture que vous faites un lien entre littérature et morale, non?
Oui, tout à fait, oui. Parce que vous avez remarqué du reste que dans ce monde-là, dans le monde que j'ai créé, de certaine façon, il y a peut-être pas de morale, mais enfin, il y a des règlements. Là, oui, on revient à l'armée. il y a des règlements. Il y a un monde très, très strict, très strict. Même pour ces êtres qui n'ont pas d'existence légale, il y a des règlements qui sont conservés dans une espèce de lieu, donc qui sont gardés par des gardiens, etc. Dans un état qui est totalement pourrissant aussi, parce que aussi dans ce que je fais, c'est que c'est sur fond d'état post-nucléaire presque. On le disait au moment de Tombeau, on disait que c'était un monde post-nucléaire.
Qu'est-ce que vous trouvez obscène, vous, Pierre Guillotin, aujourd'hui?
Je vais être méchant, mais je trouve par exemple Hollande obscène, par exemple.
Allons donc.
Oui, je trouve que c'était cette reconquête de l'opinion absolument grotesque, donc obscène, si vous voulez, pour moi. Mais c'est une opinion tout à fait éphémère et qui n'a pas d'importance.
Celle qui se croit obscène dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité qui chaque jour exhibe ce que tout le monde sait déjà. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 3 septembre?
Oui.
À qui le tour?
Très bien.
Une chance au tirage, une chance au grattage, c'est aujourd'hui qu'est lancé le loto du patrimoine, initiative portée par Stéphane Bern pour restaurer nos monuments historiques en péril. Tandis que 12 millions de tickets à 15 euros sont mis en vente dès aujourd'hui dans les points de vente de la Française des Jeux, un tirage spécial du super loto Mission Patrimoine est prévu le 14 septembre prochain. Gain espéré de l'opération entre 15 et 20 millions d'euros. Banco, banco, super banco.
La situation est encore compliquée ici au Musée National, à la Quinta de Boa Vista, au Rio de Janeiro.
200 ans d'histoire partis en fumée. Hier soir, un gigantesque incendie s'est déclaré au Musée National de Rio de Janeiro, l'un des plus grands et des plus anciens du pays. Ouvert en 1818, l'institution refermait près de 20 millions d'objets d'une valeur inestimable, notamment une collection égyptienne, le squelette d'un dinosaure et le plus ancien fossile humain découvert au Brésil. Seule consolation, aucune victime humaine n'est à déplorer. Où sont les femmes? Pas dans les festivals apparemment. En compétition à la Mostra de Venise, le cinéaste Jacques Audiard a profité de la projection de son film Les Frères Sisters pour dénoncer l'absence de femmes à la tête des festivals de cinéma. Il s'est également dit surpris de la sous-représentation féminine dans la compétition vénitienne. Sur 21 films en lice pour le Lion d'Or, un seul est réalisé par une femme, The Nightingale de Jennifer Kent. Et Paul McCartney en tournée, l'ex-Beatles de 76 ans qui sort cette semaine Egypt Station, son 17e album solo, sera en concert le 28 novembre à La Défense, à l'Arena de Nanterre, la plus grande salle d'Europe en réalité. Premier show de McCartney en France depuis 3 ans. Le concert devrait rassembler 40 000 spectateurs. Ouverture de la billetterie le 13 septembre prochain. Rock on! Et Pierre Guillotin, invité de Boomerang ce matin, on l'a entendu, Pierre, vous incarnez quelque chose de l'idée que l'on se fait de la transgression en littérature. En près de 60 ans, qu'est-ce que vous avez l'impression de transgresser, vous?
Mais moi, je n'ai pas l'impression de transgresser, si vous voulez.
Jamais.
Parce que c'est naturel chez moi, si vous voulez. C'est naturel. Donc c'est la réception qui me dit que je suis un transgressif.
Peut-être que le désir, surtout, qui est central dans votre œuvre, est essentiellement transgressif.
Oui, le désir est central, tout à fait, oui.
Parce que le désir, la libido sous toutes ses formes et dans tous ses aspects, vos textes ne parlent que de cela. Oui. En quoi désir et écriture sont-ils pour vous indissociables?
Parce qu'ils ont été indissociables dès le début. Vous savez, j'ai raconté dans quelques textes, dont Arrière-Fond par exemple, comment, au fond, déjà la prime adolescence, j'ai ressenti, d'abord, c'était la puberté, donc j'étais très sollicité comme beaucoup. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, parce que c'était un monde où on ne parlait pas de ça. Même si mon père était médecin, si vous voulez, on ne parlait pas de ça, si vous voulez. Mon père m'a fait circoncire à une certaine période parce que c'était pour des raisons d'hygiène, si vous voulez. Donc c'était une chose très importante ici.
C'est le seul lieu.
Cette circoncision, très important.
Pourquoi?
Ben parce que ça, tout simplement, ça a eu l'effet inverse, à savoir que ça, enfin, je sais pas si on peut le dire à une radio de...
Ah, vous pouvez tout dire ici.
Mais enfin, si vous voulez, ben, ça a rendu le sexe extrêmement sensible à tout. Parce que le texte était à nu. Le texte, au fond, le sexe était à nu. Parce que la circoncision, c'est le sexe à nu.
Vous avez fait un lapsus, là. Vous avez dit le texte à la place du sexe.
Le texte et le sexe. Oui.
Mais voilà. C'est pas innocent, puisque les deux...
D'où évidemment le... Alors, après, le désir d'écrire est-il venu de ce désir très vague, très flou encore, hein, à savoir aussi bien sur les femmes que après petit à petit avec le collège sur les condisciples d'une certaine façon, mais enfin beaucoup sur les femmes bien entendu, et ça l'est resté, mais si vous voulez, je pense qu'il y a eu une certaine concomitance entre les deux, entre la nudité du sexe, c'est très important pour un enfant. C'est encore un enfant, quand même, malgré tout. Ouais. Et au fond, il faut faire quelque chose de ça. Il faut faire quelque chose de ça.
Pour en revenir à l'épisode de votre service militaire, vous écrivez, Pierre Guyotat, de semences. C'est comme si j'en avais plus, ne pouvant depuis plus de 2 ans la faire sortir de moi par du texte. On peut dire que vous n'y avez pas de main morte.
Oui.
Ce que vous nous dites, en fait, j'ai l'impression, c'est que l'écriture est, pour ainsi dire, pulsionnelle et qu'elle vous rapproche de la vie. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous n'écrivez pas?
Ben, je suis assez malheureux, à vrai dire, quand je n'écris pas. Là, je sors de 4 mois d'hospitalisation et j'ai eu du mal à réécrire, vous voyez. Je prends des notes quotidiennes, tout ça, mais enfin, vraiment, la grande écriture, c'est encore difficile.
Formé.
Donc, j'ai lu, il y a pas longtemps, un texte magnifique de Mallarmé, qui s'appelle Le Nénuphar Blanc, et qui m'a redonné l'envie d'écrire, une envie immédiate d'écrire, voilà.
Formé dans l'habitude de bander dur et durable aux créatures de mon imagination, tant que je peux les faire parler, moi, me faire écrire, leur donner du plaisir et de la dignité par l'art, aurais-je autant d'élan, d'endurance sur du réel, du vivant selon les hommes? Oui. Donner du plaisir et de la dignité par l'art, Pierre Guyotat, en quoi l'art rend-il digne pour vous?
L'art est-il...
Pourquoi est-ce que l'art rend digne pour
l'art,
vous?
L'art, oui.
C'est vous qui l'écrivez.
Ben là, c'est à la fois une pratique grandiose et une pratique idiote aussi, parce que c'est grandiose effectivement quand on voit ce que l'art produit, hein, les grandes choses, les grands textes, les grandes fresques.
Oui, mais
etc.
La dignité, ça n'est pas la grandeur.
Etc. Mais pour moi, c'est lié vraiment. La dignité est très importante pour moi, si vous voulez. C'est très important. Et mais en même temps, je trouve l'art, comme la vie du reste, une activité un peu idiote, si vous voulez, une activité répétitive. Un peintre, vous savez, qui est là avec son pinceau, encore maintenant, avec son pinceau qui revient, ça a quelque chose, l'écrivain qui revient qui barre ses mots, ça, c'est une activité encore d'enfant, enfantine. Mais c'est grandiose en même temps, parce que c'est ce qui fait durer aussi l'humanité. Au fond, il n'y a pas que la vie. Il y a l'art qui fait durer
pourtant,
l'humanité.
Pourtant, très tôt, Pierre Guyotat, cet art lié à la langue, qu'est la littérature, a été central chez vous. Et vous avez pour ambition de renouveler la langue française.
Oui, parce que...
On est loin de la répétition, là.
Parce que moi, je l'ai trouvée, elle n'était pas si mal à cette époque-là, du reste. C'était les années 50. Il y avait encore tous les grands de cette époque-là, ils sont pas forcément très grands. Malraux était là. Il y avait des gens qui avaient une belle écriture très 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 puissante et très, etc. Il y avait, bon, de Sartre, c'était beaucoup moins fort, mais enfin bref. Il y avait Camus, il y avait, etc. Il y avait encore Claudel, qui était encore vivant. Claudel, c'était quand même phénoménal, quand même.
Et pour vous, par quoi passait le renouvellement de la langue?
Oui, mais je crois que c'est quand on commence à écrire et à écrire tôt, si vous voulez. Tôt, je pense tôt. On a tout de suite envie de changer la langue. Enfin, moi, j'ai eu immédiatement parce que, vous savez, j'étais dans un collège religieux, et les derniers poètes qu'on nous autorisait à lire, c'était les symbolistes. Moi, je suis allé au bout, j'ai lu, bon, tous les symbolistes possibles, imaginables, et donc j'ai voulu aller plus loin. C'est-à-dire que je ne connaissais pas encore les surréalistes, ni les dadaïstes, mais je l'ai fait tout seul, j'ai fait cette révolution tout seul.
Et par quoi ça passait?
Et ça, c'est une chose étrange, c'est ce que j'avais expliqué à René Char quand je lui avais écrit quand j'avais 16 ans, il m'avait répondu une très belle lettre du reste, et je lui avais dit que j'avais découvert tout seul tout ça, parce que comme je suis un esprit très déductif, si vous voulez, très logique, je me disais qu'après le symbolisme le plus radical, il ne pouvait y avoir que ce que je pouvais faire, au fond, à savoir des poèmes colorés, par exemple des poèmes faits de substantifs et coloré, parce que je peignais beaucoup à cette époque-là, vous savez. Et maintenant, je refais des dessins, maintenant, etc. Donc, si vous voulez, je peignais, donc, avec de la gouache, les lignes des vers, si vous voulez. Et après, quelqu'un m'a prêté une revue, quelqu'un qui était plus instruit que moi, m'a donné une revue où il y avait tout un article sur le dadaïsme. Et les dadas faisaient quand même pas mal ça aussi.
Oui.
Hein, les substantifs, tout ça, tsara, etc. Et j'étais extrêmement déçu de voir que ça avait été déjà fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit à René Char, qui me paraissait, bon, disons, un peu entre les deux, si vous voulez.
Mais c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on n'est pas éternellement déçu? Est-ce que vous pensez y être parvenu à renouveler la langue française?
Je ne sais pas, au fond. Parce que dans cette langue française, il y a aussi beaucoup d'autres langues. Mais c'est vrai que j'ai une prédilection pour le français. Tout le français est une magnifique langue qui a été à plusieurs périodes de l'histoire, de la grande histoire des temps modernes, au fond la langue prédominante. Il faut quand même pas l'oublier. Hein, au Moyen Âge, au XVIIe, au XVIIIe, et elle n'est pas morte. Mais si vous voulez, quand j'écris en fait. Quand j'écris une phrase, je me la fais tout de suite en anglais, si vous voulez, ou en italien, ou en espagnol. Vous voyez?
Pour autant, vous n'êtes pas polyglotte.
Je ne suis pas polyglotte, non, mais quand je suis dans un pays, je prends très vite l'habitude de la langue.
On va reparler de langue vivante, Pierre Guyotat, d'art, peut-être même aussi de musique, tiens, parce que je sais qu'elle est centrale dans votre travail. Juste après Billie Holiday, je sais que vous l'aimez, Good Morning Heartache, 1946. France Inter, Pierre Guyotat. Boomerang.
Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around.
good morning, Holly, sit down. Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il y a ce regard impassible, vous savez, cette moue un peu dubitatif, parfois ce profil d'éternel bagnard, de poète ou d'oiseau moqueur avec son crâne nu, son œil encore bleu, derrière des petites lunettes, ouais. La vivacité de ses mouvements de tête lorsqu'il parle, son visage qui s'anime, s'ouvre, se referme avec sa chemise bleue, ce matin avec un col qui ressemble à un col Mao, l'écrivain Pierre Guyotta, invité de Boomerang pour Idiotie, un livre, je le rappelais tout à l'heure, où vous racontez, Pierre, votre passage assez tumultueux à la vie adulte, et avant votre départ pour l'Algérie, il y a un autre départ tout aussi fondateur, qui est celui pour Paris. L'arrivée à Paris, qu'est-ce qu'elle représentait pour le jeune homme que vous étiez ?
Ben vous savez, c'était en 58, vous savez. Alors c'était très différent, les trains. Ben pour arriver à Paris, c'était loin. Paris, c'est la capitale. Les autres villes ne comptaient pas beaucoup encore à cette époque. Même Lyon, d'où je venais en passant par d'autres endroits, etc. L'arrivée à Paris, Paris c'était très dangereux, bien entendu. Mais c'était la ville de Balzac encore, si vous voulez, pour les jeunes. Donc, c'était la ville qu'il fallait conquérir, si vous voulez.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes en fuite chez vous. Qu'est-ce qui a motivé cette fugue?
Ben, je me suis enfui souvent chez moi, du reste. D'abord, quand j'étais enfant, donc pas très loin, on m'en trouvait assez facilement. Et après, je suis parti, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis parti après la mort de ma mère, en 58. Parce que je ne voulais pas lui faire cette peine, si vous voulez, donc de son vivant, je suis parti. Je pensais que mon père serait à même de supporter ce départ, parce qu'il fallait que je parte vraiment en douce, si vous voulez, vraiment.
Quel regard est-ce que votre père portait sur vos ambitions littéraires ?
Écoutez, d'abord ma mère était très soucieuse, parce que j'ai quand même assez écrit très tôt, si vous voulez. J'ai peint d'abord, j'ai beaucoup peint. J'ai peint des paysages, j'ai peint des maisons, des gens, etc. Mais surtout des paysages. Les paysages étaient magnifiques dans ma région d'origine. Donc j'ai beaucoup peint, la gouache, aquarelle, huile, etc. Et puis j'ai commencé à faire des poèmes. Alors j'ai commencé à faire des poèmes qui étaient très liés à ce que je voyais. Et puis une fois ma mère est montée dans ma chambre, la chambre que je partageais avec mon frère, avec un de mes frères, qui est là en ce moment, et où j'écrivais donc. Et elle a regardé mes papiers, parce qu'une mère est toujours très curieuse, bien entendu, et je n'en veux pas du tout, au contraire. Et alors elle a lu mes derniers poèmes, et alors elle m'a parlé après, elle m'a dit, je les aime moins parce que ils sont moins naturels, parce que je commençais un petit peu à penser, oui à l'époque je lisais les romantiques, hein. Les romantiques. Donc c'était déjà une poésie un petit peu de pensée, si vous voulez. Elle pensait qu'il fallait que je reste dans le... Elle n'avait pas tort. Que je reste dans la sensation, dans la nature, vous voyez.
Dans les sons aussi.
Les sons. Les
elle
sons.
Qui était musicienne.
Oui, mais au fond, elle voyait très juste. Ma mère voyait très juste sur beaucoup de plans. Elle avait un culte de l'art extrêmement grand, tout en ayant les préjugés de sa classe, si vous voulez. La classe bourgeoise, enfin vieille bourgeoisie d'honneur, comme on disait à l'époque. Et si vous voulez, il fallait pas non plus en faire trop avec la culture, avec l'art. Voilà.
Mais la musique est restée chez vous, voilà. Les sons aussi, dans votre écriture partout. Et il paraît, voilà, Pierre Guyotta, que vous entendez des sons que personne n'entend. J'ai lu ça.
Oui.
Quels sont ces sons que vous entendez, que personne n'entend?
Oui.
Quels sont?
Il y a beaucoup de choses que j'entends que dont je n'ai jamais pu savoir si les autres les éprouvaient. Si
oui, c'est un examen de votre conscience.
Voilà. Mais la musique a eu une importance très grande pour moi, très extrêmement tôt. Je me souviens même que juste après la guerre, donc en 45-46, j'avais 6 ans, 5-6 ans, on est tombé par mégarde sur une, si je peux dire, sur une radio étrangère, je crois, peut-être hongroise, je sais pas, donc après la guerre, donc dans cette Europe très extrêmement bouleversée, et j'ai écouté une musique qui m'a paru très étrange, et c'était un quatuor de Bartok. Je me souviens très bien de l'endroit où j'ai écouté, chez moi, devant la fenêtre, entre un fauteuil et une fenêtre, et j'ai été bouleversé par cette musique.
Pour vous, la musique est indissociable de l'écriture?
Ah oui, indissociable de l'écriture. Ben, on le voit bien du reste, parce que je cherche toujours c'est pour ça que je suis assez déçu, en général, par la littérature sur les, si je ne trouve pas de la musique, si je ne trouve pas du son.
Et des sons, possiblement, que les autres n'entendent pas.
Voilà, oui, possiblement, oui. Mais vous savez, pour moi, la littérature, c'est fait de sons aussi. C'est fait de sons, comme la musique, on l'oublie, c'est fait de sons. Vous voyez, c'est quand même un musicien français qui l'a rappelé, enfin c'est Debussy. Debussy a rappelé que la musique était du son. Parce que les Allemands étaient allés tellement loin dans la philosophie, à travers la musique, qu'au fond, on avait oublié le son, hein. Bon, Mahler avait un petit peu retrouvé ça, mais c'est Debussy qui a vraiment créé, à nouveau, fait entendre le son dans la musique.
Et vous êtes là, Pierre Guyotat, pour nous rappeler qu'il ne faut pas l'oublier de la littérature, le son. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Idiotie vient de paraître aux éditions Grasset. Inutile de vous dire que c'est très beau. Tout de suite, les médias.